À présent, Monseigneur Papin, vous allez nous parler du religieux français et célèbre ermite du désert, Charles de Foucauld. Il sera bientôt canonisé. L'annonce a été faite mercredi par le Vatican. C'est l'occasion d'évoquer son itinéraire de vie et en particulier son lien à Nancy. Cette canonisation, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, Monseigneur Papin.
Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle, c'est une grande joie, je dirais. Charles de Foucauld, c'est une belle figure de sainteté, hein. Une figure d'ailleurs inimitable, tellement elle est unique. Charles de Foucauld a eu le projet de fonder un institut religieux dont les membres vivraient la même radicalité évangélique que lui. Et on se souvient de l'abbé Huvelin qui était son directeur spirituel et qui, face à ce souhait de Charles de Foucauld, l'a exhorté en lui disant « Surtout ne fondez rien, allez vous enterrer là où vous voulez, c'est sans doute votre vocation, mais n'entraînez personne avec vous. Hein. » Pourquoi ? Bien, parce que c'était une vocation tellement radicale qu'elle était unique et personnel et qu'il était difficile que d'autres le rejoignent. Et de fait, Charles de Foucauld n'a pas vraiment fondé de congrégation. Il y a bien eu quelque chose à un moment donné, mais qui a vite été transformé. Et cependant, je dirais, sa postérité est très très nombreuse. Il a inspiré beaucoup de personnes, d'instituts nouveaux d'hommes et de femmes, de laïcs et de prêtres, de religieux et de religieuses qui se sont référés à sa spiritualité. On compte aujourd'hui, on dénombre aujourd'hui environ une vingtaine de congrégations et de fraternités qui s'inspirent de Charles de Foucauld, au total environ aujourd'hui 15 000 membres. Alors je peux citer par exemple les petits frères de Jésus, les petits frères de l'Évangile, les petites sœurs de Jésus, les petites sœurs de l'Évangile, la fraternité séculière Charles de Foucauld, la fraternité sacerdotale Jésus Caritas, qui rassemble des prêtres diocésains, un certain nombre de prêtres de notre diocèse de Nancy, font partie de cette fraternité sacerdotale Jésus Caritas. Enfin, je ne vais pas toutes les nommer, simplement pour dire que n'ayant lui-même vraiment rien fondé et ayant vécu toute une partie de sa vie dans la grande solitude, jusque dans le fin fond du Sahara, eh bien, il a cependant eu une vie extrêmement féconde. Voilà ce que je voulais dire pour commencer.
Merci pour ce rappel, Monseigneur Papin. Alors, vous souhaitiez évoquer Charles de Foucauld dans cette émission aussi pour rappeler son lien avec la Lorraine et plus particulièrement avec Nancy.
Oui, et des éléments de son itinéraire. Alors, c'est quelqu'un qui est né en septembre, le 15 septembre 1858 à Strasbourg. Une famille qui appartenait à une noblesse, à la noblesse de très ancienne lignée. Qu'est-ce qui l'a amené à Nancy? Eh bien, c'est la guerre de 1870, hein, qui va conduire son oncle maternel à venir s'installer à Nancy, 5 rues du Manège, donc à proximité de la cathédrale. Et le jeune Charles de Foucauld était pris en charge par cet oncle. Voilà. 5 rues du Manège, c'est actuellement l'école Saint-Dominique. Hein. Alors, Charles de Foucauld, quand il est arrivé à Nancy, il avait 12 ans. C'est à la cathédrale de Nancy qu'il a fait sa première communion en avril 1872 et c'est là aussi qu'il a reçu le sacrement de la confirmation. Alors, quand il évoque cette première communion, il dit qu'elle fut très pieuse, c'est son expression. Au plan scolaire, il avait à ce moment-là intégré la classe de 3e au lycée de Nancy, qui est l'actuel lycée Poincaré, où il était interne. En 1874, il a passé la première partie du baccalauréat. C'était donc fin de la classe de première et il était assez avancé. Il a pu passer cet examen avec une dispense parce qu'il n'avait que 16 ans. Voilà. C'est un jeune élève, un jeune lycéen qui était et qui est demeuré très attaché à plusieurs de ses professeurs et qui est également resté en lien très étroit avec plusieurs de ses camarades de lycée. À cette époque, on dit qu'il lisait beaucoup et c'est aussi à cette époque qu'il a perdu la foi, s'enfonçant progressivement dans le doute. Il est revenu plus tard sur cette période de perte de la foi en l'attribuant à un manque de formation philosophique et surtout à son aumônier de lycée qui n'était pas, dit-il, à la hauteur et dont les cours d'instruction religieuse étaient particulièrement rébarbatifs. Alors, il n'a pas poursuivi au lycée de Nancy, il n'a pas fait sa terminale à Nancy, mais à Paris, à l'institution Sainte-Geneviève, qui était tenue par les Jésuites. Mais, il était dans un tel état d'esprit, critiquant tout, indiscipliné, pas très courageux, que finalement, il a été renvoyé de cet établissement et est revenu à Nancy. Et à ce moment-là, il avait à peine 18 ans. Et il s'est mis dans la tête de rejoindre à plus fort que tout l'armée en entrant à l'école militaire de Saint-Cyr où il a été admis. Il y est entré au lendemain de ses 18 ans pour deux années qu'on peut qualifier, dit-on, de paresse. Voilà. Alors, au terme de tout ça, il a été nommé sous-lieutenant et il a rejoint une ville que je connais bien, qui est la ville de Saumur, dans le Maine-et-Loire, et en particulier l'école de cavalerie de Saumur. Et puis, un an plus tard, on est en 1879, il a été affecté au 4e régiment de Hussards et il revient en Lorraine parce que ce 4e régiment de Hussards était implanté à Pont-à-Mousson. Voilà. Et là, il a passé une année entière, alors comment dire, je dirais pas dans la débauche, mais dans des fêtes continuelles et dans le luxe. Il disposait d'une petite fortune personnelle, familiale, et il s'en est beaucoup servi. Il a reçu un certain nombre d'affectations militaires, notamment en Algérie, mais très rapidement, il démissionne de l'armée. Il a alors 24 ans et il entreprend un voyage au Maroc, un voyage d'exploration, qui lui donnera d'ailleurs une certaine notoriété dans le milieu des géographes et des explorateurs. En vérité, je crois, et on le dit, et il le dit lui-même, il était habité à ce moment-là par une forte recherche religieuse. Sans doute qu'il faut voir là, peut-être, le motif profond, conscient ou inconscient, de ce voyage qu'il a fait en Algérie et au Maroc, pardon, et le contact qu'il a eu aussi avec des musulmans. De retour en France, il revient à Paris, plus précisément, où il retrouve sa famille avec ce fort questionnement religieux qu'il porte en lui-même.
C'est à ce moment-là, en fait, qu'il retrouve la foi chrétienne.
Voilà, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire il veut, il est à la recherche d'un prêtre qui pourrait lui faire de vrais cours d'instruction religieuse. Alors on lui indique le nom d'un prêtre, l'abbé Huvelin, dans la paroisse Saint-Augustin de Paris. Il se rend à l'église, il rencontre ce prêtre, il lui fait sa demande d'instruction religieuse, et le prêtre, au lieu de répondre à sa demande, lui dit « tu vas d'abord commencer par te confesser ». Voilà. Et donc, il a été surpris, bien sûr, il s'est confessé, et c'est à ce moment-là qu'il situe ce qu'il appelle sa conversion. L'abbé Huvelin, qui est ce prêtre, donc, deviendra son directeur spirituel. Et toute sa vie va être transformée par cette rencontre. Désormais, dira-t-il, il ne voudra plus vivre que pour Dieu. Il dira d'ailleurs, le moment de ma conversion fut le moment de ma vocation. Alors, presque aussitôt, il fera un pèlerinage, il partira en pèlerinage en Terre Sainte. Il découvrira, et ce sera très important pour lui, la vie humble et cachée de Jésus à Nazareth, et il n'aura de cesse de vouloir l'imiter en vivant lui aussi une vie humble et cachée. Et c'est pourquoi il rentre en 1890 au monastère Notre-Dame-des-Neiges, c'est dans l'Ardèche, un monastère extrêmement austère où il va rester 6 ans jusqu'à ce qu'on lui accorde de suivre sa vocation personnelle de vie humble et cachée, une vocation d'enfouissement. Alors il va commencer par se rendre à Nazareth, il va loger au monastère des Clarisses, et même plus précisément à la porte du monastère, et il va devenir le jardinier, le domestique des religieuses. Puis ensuite, il va revenir à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, pour se préparer à l'ordination sacerdotale. Voilà. Et il sera ordonné en juin 1901 comme prêtre du diocèse de Viviers, en Ardèche. Mais ça ne sera pas pour y rester, puisqu'il va repartir presque aussitôt pour l'Afrique du Nord, et il va obtenir de s'enfoncer le plus possible dans le sud du Sahara pour y vivre parmi les Touaregs. Et ce sera à Tamanrasset, où beaucoup se rendent aujourd'hui en pèlerinage. C'est là qu'il va s'implanter à partir de 1905. Et malgré son souhait, personne ne viendra l'y rejoindre. Il vivra donc seul, et c'est là qu'il mourra, victime d'un coup de feu malencontreux, le 1er décembre 1916. Il a, à ce moment-là, 58 ans. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, malgré cette solitude qu'il a vécue dans le fin fond du désert saharien, une solitude jusque dans la mort, on doit considérer Charles de Foucault comme une des grandes figures de sainteté qui a inspiré, marqué, conduit au Christ un nombre incalculable de personnes. Un peu d'ailleurs à l'image de Sainte Thérèse de Lisieux, enfouie elle aussi dans son Carmel. Le grand théologien dominicain, le père Congar, qui a été un des inspirateurs du pape Jean XXIII et du Concile Vatican II, il dira de Charles de Foucault et de Thérèse de Lisieux qu'ils sont, c'est son expression, les phares de l'Église du XXe siècle. Je crois aussi qu'ils sont les phares de l'Église du XXIe siècle. Voilà pour l'évocation de sa vie. Peut-être une dernière chose. Je signale que à l'occasion de la béatification de Charles de Foucault en 2005, j'avais demandé au Saint-Siège la possibilité de l'inscrire au calendrier liturgique de notre diocèse, en raison de ses liens avec Nancy. Et cela nous a été accordé. Cela fait donc maintenant près de 15 ans que nous célébrons chaque année la mémoire du bienheureux Charles de Foucault, le 1er décembre, qui est l'anniversaire de sa mort. Eh bien, ce sera bientôt la célébration de la mémoire de non plus du bienheureux Charles de Foucault, mais de Saint Charles de Foucault. Il y a aussi, il faut signaler une paroisse qui porte son nom, qui est sous son patronage à Nancy, la paroisse Bienheureux Charles de Foucauld, et puis aussi un ensemble scolaire Charles de Foucauld à Nancy.